RCF Notre-Dame.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi RCF pour vous accompagner à la radio ou en podcast. Je suis avec vous pour une heure d'actualité des chrétiens de Savoie et Haute-Savoie. Allez, une devinette pour commencer. Qui a dit « Moi donc, je cours ainsi et je ne vais pas à l'aveuglette et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide ». Eh bien, figurez-vous que c'est saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Nous allons parler de sport et de foi aujourd'hui. Quel point commun, quelle valeur commune entre sport et foi, comment l'un peut porter l'autre et quel intérêt pastoral à proposer des temps qui allient une activité physique et un moment spirituel. Deux prêtres, un pasteur et trois chrétiens sportifs et engagés seront au micro dans une dizaine de minutes pour en discuter. Avant de les accueillir, je vous propose de tendre l'oreille vers l'actualité de ces jours-ci.
Vitamine C, Vanessa Sanson.
Et dans 10 jours tout juste, nous serons au cœur du G7 à Évian. La cité lacustre de 9000 habitants va se transformer en ville la plus sécurisée du monde du 15 au 17 juin et même quelques jours avant. Les chefs d'État et représentants de 7 puissances mondiales y ont rendez-vous. Une rencontre qui ne laisse pas indifférents les chrétiens du territoire. L'évêque d'Annecy, Mgr Yves Le Sault, a adressé aux catholiques de Haute-Savoie une intention de prière. Elle pourra être lue par les paroisses au cours de la messe du week-end prochain. Une prière pour la paix dans le monde et pour que la planète et la dignité de tous les humains soient au cœur des préoccupations des dirigeants. Et puis localement, le groupe Laudato Si et la paroisse d'Évian organisent notamment une veillée de prière ce mercredi 10 juin avant que la ville ne soit bouclée. Un sujet de Victorien Duchet.
Vous souvenez-vous des premiers mots du pape Léon quand il arrive au balcon le jour de son élection ? Dominique les a bien gardés en tête, paroissienne, elle est membre du groupe local Laudato Si.
La paix soit avec vous, c'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et désarmante.
Prier pour la paix, pour que chacun de nous soit acteur de paix autour de lui et pour que les chefs d'État le soient aussi à leur niveau. Ce sera l'objectif de cette veillée de prière du G7, une veillée ouverte à toutes les confessions chrétiennes. Béatrice, paroissienne mobilisée autour de l'écologie et du G7.
Tous les chrétiens, par la prière, peuvent porter cette petite lumière d'espérance.
Avec, tout au long du sommet international, une décoration dans l'église, mais aussi à l'extérieur, une banderole « Heureux les artisans de paix » va prendre place sur le fronton de l'église et la vitrine de la salle paroissiale qui donne sur une rue piétonne sera repeinte aux couleurs de la paix. Dominique.
Être chrétien, c'est aussi se montrer. Évidemment, c'est une vie intérieure qu'on essaye le plus riche possible, mais on a besoin d'exprimer aussi tout ce qu'il est possible de vivre en ayant la foi. C'est aussi une façon à nous de nous impliquer.
Et pour ceux que les décorations attireraient dans l'église, un cahier d'intention de prière spécial G7 sera laissé dans l'édifice.
Et la mobilisation de la paroisse d'Évian a déjà commencé. Ce vendredi 5 juin, une messe pour la paix a été célébrée en l'église. Messe suivie d'une nuit puis d'une journée d'adoration ce samedi 6 juin. Vous pouvez rejoindre l'adoration à Évian sans inscription. L'association des parents d'élèves de l'enseignement libre tient son congrès national ce week-end. L'APEL, c'est l'association principale des parents d'élèves d'établissements catholiques sous contrat. Elle représente environ 40 000 familles en Pays de Savoie. Thème de ce congrès 2026 qui se tient à Nancy, la liberté. Un large thème qui permet d'évoquer la laïcité, les innovations pédagogiques, le numérique, les fragilités ou encore la liberté de choisir son mode de scolarité. Michel Flamier, président de l'appel de Savoie et Vincent Mussard, président de l'appel de Haute-Savoie, en ont parlé cette semaine au micro de RCF.
La liberté d'enseignement aujourd'hui, elle est encore garantie par la loi de Debré de 1959. Mais, vous le savez, dans nos démocraties, rien n'est jamais complètement acquis. Donc il est nécessaire de continuer à affirmer cette liberté et de ne pas opposer les différents types d'enseignement.
Le congrès permet de rappeler cette conviction et d'asseoir la liberté que chacun a dans la diversité de l'éducation, ouvert à chaque parent et chaque famille.
Dans le débat public, il y a des volontés souvent idéologiques de remettre en question cette liberté. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que on n'est pas en opposition. L'enseignement privé n'est pas en opposition avec l'enseignement public. C'est une offre complémentaire et deux offres qui ont coexisté pendant des années très bien ensemble. Il n'y a pas de raison de le remettre en question aujourd'hui. C'est souvent, je pense, dû principalement à une incompréhension de ce qu'est le privé sous contrat aujourd'hui, plutôt qu'à des vraies raisons fondamentales.
Une quinzaine de parents de Savoie et Haute-Savoie participent à ce congrès national de l'appel ce week-end. Prenez des jeunes actifs et des personnes en galère qui ont connu la vie dans la rue, mettez-les en colocation et observez les fruits. C'est le concept de l'association Lazare, association d'inspiration chrétienne dont les jeunes actifs et les familles référentes prient ensemble chaque jour. En 2021, Lazare a ouvert à Genève une colocation de 10 hommes anciennement à la rue et 3 jeunes actifs. En 2024, a suivi une maison de femmes avec 6 personnes en galère et 2 jeunes professionnels. Et l'association continue sa croissance en Suisse. Elle cherche des fonds pour ouvrir une maison à Fribourg. Car quand on s'inscrit dans un temps qui peut être long, la réinsertion est possible. C'est ce que constate Gabrielle de Misoire. Elle est responsable de la communication et du mécénat pour Lazare Suisse.
Je dirais qu'un colloque qui a réussi aujourd'hui à embarquer dans le projet Lazare, c'est un colloque qui est pilier dans la colocation, qui entretient du lien avec les colloques jeunes pros, mais aussi les colloques en galère, qui ne restent pas dans sa chambre, qui participent activement à la vie de la colloque. C'est un colloque qui aussi a son travailleur social, qui le retrouve régulièrement. C'est déjà énorme, en fait, d'arriver à avoir des petits jalons de croissance, de réinsertion douce. Et puis, bien sûr, le graal, on va dire, de la mission Lazare, c'est quand le colloque a réussi à retrouver un emploi ou à retrouver une formation.
Jeudi soir, l'association a projeté un documentaire à Genève avec le navigateur Tanguy Le Turquet qui a participé à la Route du Rhum et au Vendée Globe avec un bateau aux couleurs de Lazare. Les professionnels de la santé et du social se retrouvent ce samedi 6 juin à la Mission catholique de Chambéry, une matinée pour souffler et mettre en regard sa pratique professionnelle et sa foi. Thème de ce second rendez-vous des soignants, l'écoute au cœur du soin. Nous évoquions les chrétiens d'Orient dans une précédente table ronde de Vitamine C. Eh bien, le Stabat Mater de Carl Jenkins est donné en l'église Notre-Dame d'Aix-les-Bains ce samedi soir à 20h30. Il sera donné aussi ce dimanche 7 juin à 17h30 dans le temple protestant d'Annecy. C'est une œuvre à la croisée entre Orient et Occident, interprétée par l'ensemble vocal d'Aix-les-Bains. Procession du Saint-Sacrement organisée par les jeunes des paroisses d'Annemasse et Saint-Julien ce dimanche. Pose maman à Thonon tout bientôt. Un pèlerinage du mouvement chrétien des retraités à La Roche-sur- Foron, une soirée ciné au sanctuaire de Mian et bien d'autres propositions spirituelles et culturelles sont à retrouver sur les médias de vos églises, paroisses et diocèses. Alors n'hésitez pas à aller les consulter, mais d'abord restez avec nous pour Vitamine C. J'accueille tout de suite des chrétiens qui tentent de garder un esprit sain, S-A-I-N, dans un corps sain, S-A-I-N, tout en laissant la place au Saint-Esprit. C'est parti pour la discussion de la semaine.
Vitamine C, Vanessa Sanson.
Un week-end de ski et spiritualité, une randonnée avec des veillées prières, un trail dont les coureurs seront bénis, les initiatives mêlant sport et foi se développent en Pays de Savoie, cocktail qui plaît aux jeunes mais pas seulement. Alors comment expliquer que cette alliance du physique et du spirituel fonctionne et théologiquement, y a-t-il de bonnes raisons pour associer le sport et la foi, la parole à des sportifs et chrétiens engagés aujourd'hui. Du côté des laïcs, bienvenue à Florence, Anne et Mathéo. Florence Burchel, responsable de la pastorale des jeunes pour l'église catholique de Savoie. Mathéo Michielin, aussi laïc en mission pour l'église catholique côté Haute-Savoie, responsable du pôle étudiants et jeunes professionnels pour la pastorale des jeunes du diocèse d'Annecy. Et Anne Ménès, jeune pro en Haute-Savoie, habite dans une colocation chrétienne du diocèse d'Annecy et engagée dans le groupe L'Appel de Savoie, donc des jeunes professionnels du bassin. Florence, Mathéo, Anne, pour faire connaissance, quelles activités sportives vous font vibrer et quels croyants êtes-vous? Anne?
Alors moi, je pratique la randonnée, le ski de randonnée, beaucoup le vélo. Ce qui me fait vibrer, moi, c'est d'admirer la grandeur de Dieu en montagne, de voir vraiment voir comment sa création est belle. Et c'est vraiment en montagne que je vois ça.
Et côté foi, du coup, c'est important pour vous d'être engagé, visiblement.
Oui, ça, de vraiment se mettre au service de l'Église, de pouvoir accompagner les catéchumènes qui arrivent en nombre. Voilà, et ça, c'est vraiment ce que j'ai à cœur, c'est de pouvoir accueillir dans l'Église moi, qui me fait beaucoup grandir, et j'ai vraiment envie de pouvoir donner ça aussi à ceux que j'en compte, voilà, de pouvoir un lieu de croissance.
Mathéo, quel sportif et quel croyant êtes-vous ?
Au niveau des activités sportives, je dirais beaucoup en montagne aussi. On a de la chance d'être dans un beau territoire, beaucoup de ski de randonnée, beaucoup d'alpinisme aussi, du trail et de la randonnée.
En formation pour être accompagnateur, non ?
C'est ça, c'est l'idée. Et du coup, bah, derrière, d'accompagner en trail, en randonnée, en raquette, voilà, différents publics. Et quel type de croyant je suis, ça c'est une bonne question. J'avais vraiment à vivre ma relation avec le Christ, aussi avec l'action, les rencontres, voilà, et puis les différentes expériences, dont justement avec la montagne, ce que tu disais Anne, avec la création, vraiment voir voilà l'immensité de la main de Dieu et être vraiment imprégné de sa création.
Et Florence, même question.
Moi, les activités sportives qui me font vibrer, ben j'ai grandi dans le Vercors, donc c'est également les activités en extérieur, que ce soit le trail, mais à un niveau amateur pour le coup, ou bien la randonnée en itinérance et tout ce qui peut être en sport en extérieur, l'escalade et aussi les sports sur l'eau. Et en tant que croyante, et ben comme beaucoup, j'ai été plus ou moins proche de la foi, mais maintenant, ça fait depuis un an et demi qu'on m'a confié la mission de faire grandir les jeunes dans la foi, et c'est vraiment une mission qui me plaît beaucoup.
Deux prêtres et un pasteur sont au micro. Père René Pichon, auteur de différents ouvrages sur sport et foi, ordonné prêtre en 1971, licencié du club d'athlétisme d'Aix-les-Bains, plusieurs fois champion de la région Rhône-Alpes, notamment en 5000 mètres. Vous avez été l'un des premiers prêtres à pratiquer le sport à haut niveau. Vous avez d'ailleurs publié des ouvrages faisant lien entre sport et foi. Prêtre retraité, vous êtes en ce moment en service sur le doyenné d'Aix-les-Bains, vous rendez encore des services à la Ravoire où vous résidez et vous continuez en grand sportif à courir vos 10 km par jour quand les messes du matin vous le permettent. Vous aimiez Dieu, Père René, vous étiez passionné par le sport déjà tout jeune. Est-ce que vous avez dû lutter pour convaincre, je sais pas, des curés, des évêques pour montrer que la prêtrise et le sport étaient compatibles?
Quand je suis rentré au grand séminaire à Annecy, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à pratiquer la course à pied, notamment la compétition. D'ailleurs, au séminaire, alors que j'avais 23 ans, j'ai fait 8e en finale au championnat de France de 5000 mètres, hein, puisque j'étais champion régional, départemental, régional, interrégional. Donc, on était 15 finalistes. J'ai fait 8e à 23 ans. Et donc, à ce moment-là, le gros problème, c'était, peut-on être prêtre, donc annoncer l'évangile, être au service de l'évangile et faire de la compétition? La compétition, c'est battez-vous les uns les autres, c'est-à-dire on cherche à battre les autres, on cherche pas à les attendre comme on fait quand on fait de la randonnée avec des amis, etc. Et puis, est-ce que c'est pas de l'orgueil? Les premiers sont les derniers seront les premiers, dit Jésus, heureux les pauvres, etc. Donc, quand on fait de la compétition, on a envie de gagner, alors est-ce que c'est de l'orgueil? Et puis, est-ce que chercher à battre les autres, c'est-à-dire à les devancer, à les dépasser, est-ce que c'est contraire à l'amour? Parce qu'aimer, c'est aider, et non pas chercher à vaincre. Donc, voilà. Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir continuer alors qu'un séminariste qui est d'ailleurs fini évêque maintenant, qui est à la retraite, était aussi un grand spécialiste du 800 mètres. Il courait avec Michel Jazzy et les grands de l'époque. Et lui, on lui avait interdit de continuer parce que justement à cause de ça. Voilà. Et puis du temps qu'on prend, parce que, et puis de s'occuper de son corps plutôt que de son âme. Enfin voilà. Et puis j'ai fait pendant des années 30 à 40 kilomètres d'entraînement par jour. Entre 20 et 35 ans, donc ça prend beaucoup de temps. Et ce temps, eh ben, est-ce qu'il n'est pas un temps égoïste? Est-ce qu'on ne devrait pas être en tant que prêtre au service des autres et des paroisses plutôt que à tourner en rond autour d'un stade?
Ah ben, on va creuser tout ça. Vous avez déjà évoqué pas mal de thèmes que je voulais creuser avec vous juste après vous avoir tous présentés. À vos côtés, Pierre-Emmanuel Dieudonné, ordonné prêtre en 2025 à Chambéry, notamment pratiquant de l'alpinisme et du trail, actuellement vicaire dans le doyenné d'Aix-les-Bains. Comment vous alliez-vous au quotidien justement votre vie de prêtre et cet amour du sport?
Déjà, c'est un peu plus trail plus qu'alpiniste, c'est quand même un peu plus accessible ces derniers temps. C'est vrai que pour nous prêtres, c'est un grand défi pour plein d'autres personnes, mais de s'arrêter. Et c'est vrai que le lundi, on essaye souvent un peu de décrocher. Et donc, j'en profite souvent pour découvrir un grand sommet en Savoie ou Haute-Savoie. Et c'est vraiment seul pour le côté retraite ou bien avec des amis, des paroissiens, pour faire vraiment une vraie pause, décrocher un peu du téléphone, de la vie pastorale. La deuxième chose, c'est ça marche un peu moins sur Aix pour l'instant, mais quand j'étais à Gap, j'avais lancé un groupe de trailers un peu paroissiens où on partait rejoindre, découvrir un petit sanctuaire, une petite église, aller-retour, et puis on finissait un peu avec une petite bière fraîche à la fin, donc il y avait vraiment un côté fraternel, sportif, et puis découverte du patrimoine. Et la troisième chose, c'est depuis que je suis prêtre, là, j'ai tout le temps, on voyage beaucoup quand on est prêtre, et donc j'ai toujours une paire de baskets un peu dans la voiture, et c'est vrai que dès que j'ai un créneau d'une demi-heure, trois quarts d'heure, entre deux, trois réunions, rencontres, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir en profiter pour courir un peu ou me balader dans la forêt, dans la montagne. Ça permet vraiment d'avoir une vie équilibrée, une bonne hygiène de vie.
On va en parler aussi de cet équilibre. Vous m'avez surpris, je croyais que vous alliez dire on finit par une petite messe, non, c'était la petite bière.
Octavio Bermeo, pasteur de l'église évangélique Acte à Chambéry. Vous avez été converti à l'âge adulte après avoir vécu un événement miraculeux. Pas mal de membres de votre église sont des sportifs et vous avez monté, on va en parler en deuxième partie d'émission, une belle action mêlant sport et foi. Est-ce qu'il y a un sport, vous, qui vous fait vibrer comme pratiquant ou supporter?
C'est culturel. En Colombie, il y a deux sports qui sont là autour de nous. C'est le foot. On convertissait, je me souviens, les rues de nos quartiers dans les petits stades de foot tous les dimanches, tous les week-ends. Donc, je grandis dans cette culture-là. Et puis après, aussi, le vélo, parce que c'est le moyen de transport le plus facile, le plus accessible. Je n'ai pas été un grand cycliste, ce n'était pas mon sport, mais par contre, le foot, je l'ai pratiqué pas mal. Le résultat, c'est que dans l'année 2018, j'avais mes ménisques et mes genoux un peu accablés à cause de ça. Et donc, j'ai failli de passer par les blocs opératoires. Mais ici, là, quand je suis arrivé à Chambéry, je cherchais, les églises font du foot, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du foot? Il y avait d'autres sports, randonnées, et finalement, ben, on a créé un petit
noyau
des sportifs du foot, et auquel on appelait Galatas 5, parce qu'on parlait des fruits, aussi de l'esprit, donc du coup, on voulait, quelque part, au travers le foot, envoyer un message de joie, de paix, d'amour, de tout ça. Mais ça n'a pas tenu longtemps. On dirait qu'à Chambéry, le foot, c'est pas trop le truc. C'est plutôt, j'ai entendu dire, après, c'est plutôt les randonnées, les rugby. Donc, oui, dernièrement, il y a pas mal de gens qui sont arrivés à l'église, qui aiment et qui sont passionnés par le sport, mais aussi par la foi.
On va creuser tout ça avant d'évoquer les initiatives pastorales qui allient sport et foi et ce qu'elles permettent. J'aimerais justement que vous nous fassiez profiter de votre expertise théologique. Alors, en fouillant un peu dans ma Bible, j'ai trouvé une mention explicite du sport chez Saint Paul. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 24. « Ne savez-vous pas que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul gagne le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent une assaise rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable. » Nous pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi, je ne vais pas à l'aveuglette et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide. Je m'adresse peut-être à nos deux prêtres et notre pasteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette analogie entre l'athlète et la vie en disciple du Christ?
C'est évident que pour pratiquer le sport sur toute compétition, il faut s'entraîner, faire des efforts et puis avoir une discipline de vie, par exemple la nourriture et puis les horaires, savoir se reposer. C'est pas l'ascèse qui nous fait du mal, parce que dans la tradition de l'Église, il y a la tradition ascétique, souvent c'était vu comme une sorte de punition ou de pénitence, alors que l'ascèse sportive, c'est une ascèse dynamique et une ascèse épanouissante. On se sent tellement mieux quand on fait des beaux efforts d'entraînement, et ben voilà, donc c'est pour être mieux. C'est cette ascèse-là que Saint Paul connaissait, puisque lui, il a vu beaucoup d'athlètes au stade. Hein. Enfin, il a vu ce qu'était que la course et ce qu'étaient les sportifs du temps des Grecs, etc. Voilà.
Est-ce que vous en avez d'autres en tête? Est-ce que vous en connaissez d'autres allusions au sport dans l'Ancien et le Nouveau Testament?
L'Épître aux Philippiens, la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 13, c'est celle que j'aime le mieux. « Certes, je ne suis pas encore arrivé, c'est Saint Paul, hein, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut. » Il y a deux manières de voir le sport. Il y a même trois manières. Moi, il y a le sport ressourcement, c'est le sport qu'on fait, les randonnées, etc. Il y a le sport dépassement, c'est la compétition. Moi, je pense que aussi le sport, c'est une manière de vivre. Lancé vers l'avant, je cours vers le but. La vie, c'est ça. On va vers un but. Et quel but? Ben, c'est Dieu et l'éternité. Et donc, mais il faut pas y aller en traînant les pieds. Il faut y aller avec du dynamisme, de l'effort, avec une ascèse, avec... voilà. Dans les livres que j'ai écrits, il y a le sport et la foi, puis il y a la course de ma vie. Voilà, ben, la course de ma vie, c'est ça. Faire de sa vie une course.
Personnellement, ça m'a toujours inspiré, comme le père René vient de dire. L'apôtre Paul utilisait beaucoup cette analogie parce qu'il était dans son contexte aussi. Il ne faut pas oublier qu'il était aussi citoyen romain. Et dans cette culture, il y avait beaucoup aussi la culture de l'esport. Par rapport à la foi, il y a un verset, c'est 2 Timothée 4, 7. Timothée, c'était l'un de ses disciples. Et pour l'encourager, il va lui donner à nouveau cette image. Il va lui dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Pour les faire comprendre que la foi, c'est pas juste quelque chose d'acquis, mais aussi c'est comme une course. Il y a cette notion de résistance, de persévérance.
Il me semble que dans notre société, parfois, on peut un peu vouloir diminuer ou ne pas montrer le côté un peu de l'échec. Comment le sport, à travers les échecs, les blessures, les, les défaites peuvent aussi un peu nous aider. Par exemple, je sais que j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais étudiant, toujours contre un même ami. Je perdais toujours, mais j'étais hyper heureux à chaque fois de jouer. Et en fait, je sais que j'ai beaucoup progressé comme ça. Je pense que le sport peut vraiment beaucoup nous apprendre, en fait, à, parce que en fait, c'est le réel d'avoir des échecs, des ralentissements. Donc ça, pour moi, c'est une grande vertu du sport.
Cette notion de persévérance, ça nous renvoie effectivement à 7 à 16. Et alors, j'y reviens, on entend pas mal parler de combat spirituel pour les personnes qui se convertissent, qui adoptent la foi chrétienne, par exemple les baptisés, les confirmés adultes. Effectivement, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie de foi.
De fait, Saint Paul parle beaucoup de la vertu d'endurance et de fait, avec les catéchumènes, ça me marque à quel point c'est important de leur montrer que c'est pas parce qu'ils vont être baptisés que tout d'un coup leur vie sera toute rose, qu'il y a vraiment une vraie vertu d'accepter parfois des moments un peu de difficulté, d'épreuve et de vraiment persévérer.
Eh bien, pour moi, le combat spirituel, l'image que je retiens de la Bible qui parle de ce combat, moi, c'est le combat de Jacob. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes et tu l'as emporté. Eh bien, moi, je pense que la vie spirituelle, c'est un combat, mais des fois un combat contre Dieu qui nous bouscule, qui nous dérange, qui nous invite à aller plus loin. Et on n'a pas trop l'envie, alors Dieu nous combat, puis nous, on combat contre lui, et finalement, c'est comme ça qu'on progresse. Donc, voilà, le combat spirituel. Alors, quand on voit aussi dans les psaumes, dans la Bible, il y a plein de psaumes qui invitent à vivre ce combat contre les forces du mal, contre l'égoïsme, la méchanceté, etc.
Et alors, puisque vous devez filer, Père René Pichon, avant de filer, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez résolu toutes ces tensions entre sport et foi? Là, vous nous disiez quand j'ai dû faire admettre à des curés, à des évêques, qu'un séminariste, un prêtre pouvait prendre du temps, que faire de la compétition, c'était pas forcément ne pas aimer, etc. Comment vous avez résolu tout ça, vous?
Eh bien, d'abord, premièrement, pour ce qui concerne l'orgueil, Pierre-Emmanuel vient d'en parler. Je pense que le sport nous apprend plus à perdre qu'à gagner, parce qu'on perd bien plus souvent qu'on ne gagne. Et puis en plus, quand on gagne pas longtemps. Avec l'âge, on est vite dépassé, donc on apprend l'humilité, et ça, c'est vraiment, le sport nous l'apprend. On se croit très fort, on croit qu'on va gagner, qu'on va être champion, puis finalement, c'est très rare quand on gagne. Bon, et puis alors moi surtout, la grande découverte, c'est que, eh bien, on lutte contre des adversaires ou des concurrents, mais pas contre des ennemis. Moi, le sport, c'est pas la guerre. La guerre, on détruit les ennemis. Alors que le sport, on cherche à battre. Mais quand on cherche à battre, c'est pour nous dépasser nous-mêmes et aider l'autre à se dépasser. Alors moi, je crois que c'est surtout ça que le sport m'a appris. C'est voir dans les autres des amis avec qui on partage, mais voir aussi dans les autres, quels qu'ils soient, même dans les autres religions, dans les autres... on voit des gens qui ne croient pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous. Alors, on peut partager, dialoguer, mais des fois, on peut se combattre, mais pas pour les détruire, pour qu'on avance tous plus loin. C'est ça, vraiment. Moi, la grande distinction que je fais, c'est la distinction entre l'adversaire et l'ennemi. L'adversaire, c'est celui contre qui on lutte, mais on l'aime. On l'aime parce qu'il nous pousse à aller plus loin, et puis lui va plus loin, donc on se dépasse. Le grand mot, même que le pape Léon vient d'employer en parlant des sportifs, c'est le dépassement. Le dépassement, on pousse l'autre à se dépasser. Voilà. Alors il y a deux manières d'aimer, en tout cas c'est ce que je retiens moi. On peut aimer les autres en les aidant, les attendant, en cherchant, et puis on peut les aimer en rentrant dedans, en les poussant. Allez, va plus loin, tu peux faire mieux, et puis moi aussi je vais faire mieux, donc on est en compétition.
C'est l'émulation, finalement, et c'est pas contraire à aimez-vous les uns les autres comme
au
vous aimez.
Voilà, oui, c'est ça.
Et je vous laisse filer, il est pile poil l'heure. Émulation, je voudrais aussi qu'on parle de ce corps qu'on évoquait tout à l'heure. Le dicton dit « Esprit Saint dans un corps saint, saint sans le T, S-A-I-N ». On sait à quelle conversion nous invite la vie chrétienne. Est-ce que les Écritures parlent de ce corps saint, Pierre-Emmanuel, Octavio?
Il y a un verset qui me touche beaucoup. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et souvent on dit « Oui, Jésus-Christ est venu nous apporter le salut, la vie », mais le salut, elle va toucher aussi la partie bios, qui est notre corps. Et parfois, on néglige ça en tant que chrétien. On va s'en occuper du pneuma, l'âme, on va s'en occuper de notre esprit, mais dans la totalité du salut, du bonheur, il y a aussi ce côté bios parce que de certaines manières, on est ce temple du Saint-Esprit et on reflète aussi ce Saint-Esprit qui est dans nos vies et donc nous devons prendre soin. Donc oui, il y a complètement quelque chose de complémentaire.
Et d'ailleurs, c'est paradoxal, vous dites on a beaucoup négligé le corps au profit de l'esprit, alors que Pierre-Emmanuel, c'est bien la religion de l'incarnation, le christianisme, Jésus a pris cher.
Oui, mais c'est vrai que je repense aussi à la lettre aux Hébreux qui parle un peu du fait que la foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas encore. Et c'est vrai que je vois beaucoup le lien, enfin l'intérêt du sport pour nos yeux. Je trouve qu'on peut avoir beaucoup de violence dans notre quotidien ou avec les médias. Et je trouve que la vertu du sport, ou de la montagne surtout, c'est aussi de pouvoir faire du bien à nos yeux. Mmh. En fait, quand on voit un coucher de soleil, un lever de soleil, quand on voit la nuit, quand on voit juste des animaux dans la forêt. Pour moi, un esprit sain dans un corps sain, c'est aussi pouvoir faire une pause un peu numérique et puis un peu générale pour faire du bien à nos yeux. Donc c'est aussi une des vertus du sport qui nous aide aussi et ça nous prépare aussi à la vision béatifique justement.
Est-ce que tous en tant que croyants, vous avez fait cette expérience qu'un effort physique ou une expérience sportive participe à votre bien-être spirituel ?
On peut éduquer dans ce sens-là en me disant, enfin, mon père qui était très cycliste, qui a fait beaucoup de cols et qui était aussi un grand ingénieur, enfin, il a fait des grandes écoles et un travail aussi très intellectuel. Et pour lui, le sport, c'était vraiment nécessaire, pas seulement pour le corps, mais vraiment pour allier l'ensemble, pour que ce soit à la fois au mental et aussi au spirituel, qui était une part très importante de sa vie. Ouais. Et je pense que, comme le dit le père Pierre-Emmanuel, ça nous permet de faire une pause générale, de se reconcentrer sur ce qui nous entoure, sur le bruissement des feuilles dans les arbres, la beauté des couleurs, des choses très subtiles et de tout reprendre à zéro. Et généralement, c'est lié, en fait, le fait de décharger son corps. On a l'esprit plus libre et on peut aussi ressentir la présence de Dieu dans ces moments-là.
Mathéo, Anne?
Enfant, j'aimais pas faire du sport. Un hiver, mes parents me disent « on vous envoie en colonie de vacances ski et spi ». Alors nous, on adorait faire du ski quand même. Et il y avait ce côté spi où moi, j'ai vraiment découvert qu'en fait, il y avait quelque chose de supplémentaire en fait. Où finalement, on faisait pas du ski pour se faire plaisir, parce que c'était pour se faire bien voir, pour patati ou tatata. Il y avait quelque chose de très fraternel. Et en fait, dans cette fraternité, le sport prenait vraiment sens. Et c'était un moment de notre journée parmi en fait beaucoup d'autres choses qui nous faisaient grandir. Et c'était un volet de croissance et pas l'unique... plaisir de la journée. Moi j'avais des souvenirs où on rentrait du ski et finalement on était tous de mauvaise humeur. Là en fait on rentrait du ski en colo et on était tous de bonne humeur. Il y avait encore l'éveillé, les chants, la messe. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grandir. Et voilà, moi ensuite j'ai voulu vraiment être animatrice de ces colos pour faire goûter ça aux jeunes. Voilà, de pouvoir se déployer dans tous en fait les volets de la personnalité humaine.
Très récemment, il y a 2 semaines, en allant faire un sommet, le Grand Paradis, donc un 4000 facile à ski alpinisme. Je dis facile parce que c'est une course qui est facile en cotation d'alpinisme. En arrivant presque au sommet, je me refaisais des chants de Thésée à l'intérieur de moi. Et en fait, petit à petit, s'ouvrir avec cette beauté qui est extraordinaire. Et en fait, le temps, c'est vraiment cette démarche de temps aussi. Petit à petit, une course d'alpinisme peut durer des heures et des heures. Des fois, c'est 5, 6, 7 heures de montée. Et en fait, vraiment ce temps qui est différent du temps qu'on peut retrouver en bas. Ouais, le monde de la montagne et le monde du sport, je crois que ça vient aussi, revenir, ralentir les choses et puis revenir sur ces choses très simples.
Changer le rythme, voir la vie autrement finalement.
Je fais aussi du sport, mais surtout pour m'entretenir physiquement. Et j'essaye de courir à moins 2 fois par semaine. Et pendant que je fais mon footing, c'est là que souvent je me sommeille.
J'allais vous demander tous les deux, parce que j'ai entendu pas mal de prêtres, de pasteurs me dire, moi, quand je galère sur une homélie, je vais marcher. Voilà la preuve. Oui, même en courant, ça fonctionne. Pierre-Emmanuel.
Je rajoute aussi un élément pour moi très précieux dans le sport, en particulier dans l'alpinisme, c'est le fait de chercher le mérite de la récompense. Dans l'alpinisme, il y a toujours la marge d'approche la veille, on arrive au refuge. On dort pas beaucoup, on se réveille vers 1-3 heures. Et ensuite, il y a toute une marche sur le glacier, de nuit à la frontale. Et en fait, on arrive au sommet que pour le lever de soleil. Ça nous apprend aussi vraiment à persévérer, à avoir foi, espérance. Quand on est là-haut au sommet, ben on sait que ça valait le coup de dormir au refuge, de se lever très très tôt. Donc c'est vraiment une très grande vertu. Et de fait, j'ai fait le Grand Paradis aussi il y a quelques temps. On a pu célébrer une messe d'ailleurs là-haut. Je pense que c'est une des plus hautes qu'on a pu faire. Et c'est vrai que voilà, c'est une grande vertu de l'alpinisme. Après, je suis bien conscient que l'alpinisme aussi est peut-être moins accessible. Mais c'est là où il y a beaucoup aussi de groupes et d'associations qui permettent de rendre accessible à des personnes voilà, un peu moins proches des montagnes ou ayant moins accès.
Ou moins favorisé, je pense au Secours catholique qui a amené au pays du Mont-Blanc en alpinisme des personnes migrantes. Pour continuer peut-être à creuser, on a pas mal parlé de valeurs communes qui unissent sport et foi. Est-ce qu'au contraire, il y a des frottements entre sport et foi j'imagine peut-être tout ce qui peut virer à l'extrême dans le très haut niveau, la question de l'argent, de la compétition où on n'est peut-être pas dans l'esprit du père René Pichon tout à l'heure, ou un culte du corps à l'excessif.
Ça tombe un petit peu aussi quelque chose que Paul a vécu avec Timothée, parce qu'il va le dire en Timothée 4:14, il le dit, attention, les sports en excès, c'est pas trop constructible. Je suis en train de paraphraser les versets. Mais si vous le lisez, il va le dire ça. Et c'est parce que, justement, il est en train de le dire, on est dans un contexte dans lequel on fait le culte au corps. Et j'imagine que Timothée, en tant que jeune, parce que c'était un jeune, il aimait faire du sport, et donc il va le mettre en garde. Mais il va pas le dire, ne faites pas de tout sport. Il va le dire juste, attention. Il faut, en tant que sportiste, en tant que aussi, disons, sportiste de la foi, parce que c'est la foi, c'est un sport aussi, il faut l'entretenir comme un muscle, il faut marcher par la foi, tout ça. Il faut garder cet équilibre pour qu'on ne soit pas dans un excès qui nous fasse perdre le focus.
Moi, je pense surtout, par exemple, à Annecy, où on part souvent sur des week-ends entiers, où c'est une vraie discipline de se dire, d'être rentré, par exemple, pour la messe de 18h, en se disant, malgré le fait que j'ai passé un week-end voilà, à contempler la beauté de Dieu, ben, en fait, on a quand même besoin des sacrements pour se nourrir. Et cette messe-là, en fait, c'est trop facile de la rater. Voilà, donc il y a, je pense, un effort de se dire, voilà, si je veux continuer de nourrir ma foi et mon corps et ce sport que j'aime, voilà, quand même une discipline de se dire, bah, dans mon week-end, j'arrive à prévoir les deux. Et c'est une organisation, ouais.
Je reprends un peu les sept péchés capitaux et je vois vraiment cette balance entre l'orgueil et l'humilité qui est des fois très fine et à double tranchant des fois au niveau du sport. J'ai fait un 100 km en trail, j'ai fait et c'est vrai que en tout cas l'orgueil peut parfois beaucoup revenir et aussi les apparences, le monde des apparences, avoir des marques sur soi. Enfin voilà, on le voit beaucoup à Annecy, on le voit beaucoup dans l'arc alpin. Faut arriver à rester discipliné.
C'est une ligne de crête, pour reprendre l'image de la montagne, Pierre-Emmanuel.
C'est une ligne de crête, mais c'est vrai que je vois aussi un danger de la compensation qui peut, je pense, être assez présent avec notre société. Parfois, quand on peut avoir des problèmes, des galères dans la vie professionnelle, familiale, tout ça, parfois, le sport peut apparaître comme juste un moment de compensation.
Un exutoire.
Oui. Alors déjà, je trouve ça très délicat de juger pour les autres. Donc pour moi, c'est chacun, en fait, de discerner ça. Mais je pense qu'il y a un danger, tout d'abord, parce que du coup, on ne se contrôle pas trop et c'est là qu'on peut vite se blesser. Ou bien, en fait, le faire plus par nervosité. Du coup, il y a un vrai danger quand même à pouvoir parfois accepter de faire du sport en courant lentement, en variant les sports, en essayant de pas le faire toujours tout seul. Parce que sinon, de fait, si on fait toujours du sport en étant toujours à fond comme ça, enfin, il y a un manque de vertu et ça peut être un peu un côté mauvais du sport.
Un dérapage aussi bien physique que psychique. Bon, c'était super intéressant. On va passer à notre deuxième partie, évoquer pas mal d'initiatives. Mais je pense que vous aurez parlé à beaucoup de nos auditeurs sur cette thématique sport et foi. Continuons.
Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité, Vanessa Sanson.
À bâton rompu sur sport et foi aujourd'hui dans Vitamine C, 2026, année du premier Sacré Trail organisé par l'Église catholique en Savoie. On va en parler, bien d'autres initiatives allient sport et foi dans nos deux départements savoyards, hein, on le disait, qui se prêtent bien à l'activité physique et notamment en plein air. Nos invités vont nous partager quelques exemples et évidemment au travers de ces initiatives, j'aimerais comprendre en quoi pastoralement c'est intéressant d'allier l'expérience physique et sportive à l'expérience spirituelle. On a commencé à le comprendre avec le début de notre discussion. L'exemple le plus ancien, peut-être, on n'y pense pas toujours quand on parle de sport et foi, c'est le pèlerinage. Alors, il y a des pèlerinages plus sportifs que d'autres. Est-ce que certains veulent nous partager un souvenir de marche en pèlerin ou nous raconter en quoi ce déplacement et cette activité physique ont eu un impact sur l'expérience spirituelle vécue? Peut-être des jeunes au JMJ.
Ah, c'est marrant parce que je ne pensais pas du tout au JMJ pour le moment.
Allez, Florence, autre chose, autre exemple.
Mais un exemple, on avait vécu ça au collège, il me semble, pour un pèlerinage diocésain. C'était pour la nuit de Pâques et on avait marché toute la nuit jusqu'à la résurrection avec le lever du soleil le lendemain.
Oh, sympa.
C'était effectivement une chouette expérience parce qu'il y a effectivement cette notion d'effort. On n'est pas tous sportifs au collège et on vit ça tous ensemble et on peut sentir à la fois la notion du dépassement, la notion de la persévérance qui sont les valeurs du sport. Le fait de vivre ça ensemble et du coup de se soutenir au milieu de la nuit quand c'est vraiment il fait noir et que on chante pour se donner du courage et puis à la fois et ben toute cette explosion le lendemain avec une super messe avec enfin voilà on voit que ce sont vraiment des liens qui se tissent aussi et encore une fois que tout est lié cette marche l'effort le fait d'être ensemble qui pour moi aussi est vraiment important le fait de la communauté et puis la célébration la messe et on sent d'autant plus le passage du jour à la nuit enfin toutes les notions spirituelles qui se cachent derrière.
Et chaque année, j'ai le plaisir de participer à cette action qu'organise la communauté du Chemin Neuf à l'abbaye de Hautecombe qui s'appelle Welcome to Paradise. Il y a un souvenir qui est resté ancré dans ma vie, c'est qu'une année, on a préparé un parcours Gédéon. C'était un parcours dans lequel on encourageait les jeunes à justement se dépasser. On avait mis des obstacles parce que c'est grand là-bas. Et le parcours était assez difficile parce qu'il fallait le faire avec les yeux vendés. Il devait prendre un caillou, comme il le voulait, soit grand ou petit. Et puis après, traverser un bon morceau du lac en marchant avec ce caillou qui les gênait. Et là, on arrivait dans le morceau de la rive qu'on avait préparé. Et on les a dit, ce caillou représente ce qui vous ralentit dans votre carrière, dans votre course. Donnez un nom à ce caillou. Et là, ces jeunes ont commencé chacun à crier les choses qui les ralentissaient. Et puis après, on a vécu un moment très, très fort d'écoute, d'accompagnement et de prière. Donc, c'était beau.
Une expérience sportive, entre guillemets, qui me marque, c'est pour faire un peu l'éloge du scoutisme et en particulier de la route. C'est la branche aînée donc de 18 à 25-30 ans. Et donc, il y en a en Savoie et Haute-Savoie. Et en fait, le but, c'est d'avoir des routes d'été, d'hiver, des pèlerinages aussi, un peu comme celui de Vézelay, qui est très connu en novembre. Et tout au long de l'année, d'utiliser la route pour permettre, en fait, à des jeunes étudiants, jeunes pros, de sortir un peu de leur zone de confort par le bivouac, par cette marche. Et je vois que ça produit beaucoup de fruits chez ces jeunes, de quitter un peu leur milieu, leur travail, leurs études, pour trouver dans cette vertu de la marche sportive et puis un peu du bivouac, d'être en nature aussi.
Ouais, et la
moi, je peux témoigner marche, de mon petit pèlerinage en route vers Compostelle le printemps dernier, où on est parti du Puy-en-Velay. Et je rejoignais un copain qui, lui, marchait depuis déjà un petit bout de temps et qui s'était blessé. Et on s'est posé la question, en fait, quel rythme on veut se donner, comment on veut avancer. Il y a tout de suite eu quelque chose de l'écoute de on se mettra au rythme du plus faible. Et il y a quelque chose de très chrétien, finalement, là-dedans. Et puis, on s'est posé la question aussi, si notre rythme sera plus faible, est-ce qu'on arrivera vraiment à Rocamadour? Il y a une bénédiction demain matin, mais est-ce qu'on prend le temps, etc. Et on s'est dit, finalement, si on marche pour Dieu, autant mettre aussi Dieu à la première place. Et on s'est dit, on verra en fait ce qui nous arrivera. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on s'était donné 12 jours pour arriver à Rocamadour. On est arrivé en 11 jours et demi, malgré le fait qu'on avait retardé notre départ d'une demi-journée. On a rencontré des gens extraordinaires sur la route. On a pu faire du porte-à-porte, rencontrer des gens aussi qui malgré le fait qu'ils étaient sur le chemin de Compostelle, n'avaient jamais rencontré de pèlerins. Il y avait vraiment un témoignage aussi de ce qu'on vivait, qui était assez extraordinaire. Et puis c'est arrivé à Rocamadour, où effectivement on voit que c'était un lieu de pèlerinage depuis des générations. On s'inscrit vraiment dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Donc il y a vraiment une expérience aussi de foi, de se dire qu'on s'inscrit dans le temps. Finalement, on n'est que de passage aussi, qu'on est les relais en fait d'une foi. Et ça, je trouve ça aussi très beau dans le pèlerinage, de se dire qu'on est des relais. Voilà, donc j'ai hâte de
continuer ce beau chemin.
Faire la suite en plusieurs étapes, alors, du coup.
Exactement.
Anne et Mathéo, vous avez organisé cette année un week-end de ski et spi pour les étudiants et les jeunes professionnels de Haute-Savoie. Alors, il y a plein d'établissements scolaires catholiques dans nos départements qui organisent aussi des week-ends de ski et spi pour tous les âges. Qu'est-ce qui s'est vécu pendant votre week-end et quels ont été les fruits de ce choix pastoral d'allier sport et foi ?
En fait, on est chrétiens dans le monde, dans les différents aspects de nos vies. Et aussi dans le monde du ski. Et donc, c'était vraiment cet exercice spirituel. En fait, vraiment, on a pu partir skier ou alors faire des marches en raquette. Et on a une prière le matin. On avait un temps de louange le soir. Et donc, vraiment, déjà le matin, préparer nos cœurs. Le soir, rendre grâce. Mais en fait, c'était vraiment un exercice spirituel. L'idée, c'était derrière de pouvoir le remettre en place après pour eux... par la suite, pour leur prochaine journée en montagne, au ski, mettre le Christ au centre à tous ces moments, rendre grâce, merci Seigneur pour ces temps-là, et de ne pas rester uniquement dans ce plaisir égocentré.
Je pense que pour des jeunes, c'est aussi compliqué parfois de se dire qu'on prend du temps sur un week-end ou quoi pour se former, pour rencontrer d'autres chrétiens. Et le sport, en fait, finalement, a pour parfois, je pense, attiré à notre week-end des gens qui spontanément seraient pas partis se former ou rencontrer des chrétiens. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette attraction de, en même temps, ceux qui avaient vraiment envie d'être nourris spirituellement qui sont venus et ceux qui avaient envie de faire du sport. Tout ce monde-là s'est rencontré, des amitiés en fait chrétiennes qui se sont forgées. On dit souvent qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc là, l'idée, c'était vraiment de souder une nouvelle fraternité entre nous. Et puis on voit bien aussi en termes de fruits pastoraux qu'à l'appel de Savoie, il y a des gens nouveaux qui sont arrivés suite à ce week-end, et qui ont voulu continuer de vivre cette fraternité en fait tout au long de l'année. Et ça, je pense que c'est vraiment les fruits de ce week-end, d'avoir eu une formation aussi de qualité. On a des gens de Genève, de Paris, de Bourges, de Lyon qui sont venus pour ce week-end-là. Donc en fait, c'est aussi vraiment le rayonnement de notre église d'Annecy qui a pu, en tèche d'huile, rayonner aussi autour de nous. Et on a vraiment comme mission aussi de rayonner. Et il y a quelque chose aussi un peu délire de commercial, en fait, se dire comment on rend ce message de l'Église, en fait, attractif pour que même des gens qui n'auraient pas spontanément voulu entendre parler de ça, se retrouvent, en fait, face au message du Christ, complètement désarmés, et se disent, oui, en fait, ça va changer ma vie, quoi.
Montrer cette Église en sortie, cette Église en envoi, et il y a aussi de l'ordre de la mission, d'annoncer l'Évangile.
Et puis la montagne, c'est vraiment le lieu aussi du retrait. Donc on a eu une soirée d'adoration. C'était le moment aussi idéal pour se dire, Seigneur, tout ça, je le dépose en tes mains. On a été le déposer au sommet de la montagne. On rentre aussi beaucoup plus léger chez soi en ayant déposé tout ça. Et puis dans la Bible, on voit bien que la montagne, c'est vraiment le lieu où Dieu parle à ceux qu'il aime. C'est là où il a parlé à Élie, il a parlé à Moïse, il a parlé à Jésus. Donc en fait, se retirer sur la montagne, c'est aussi vraiment ouvrir son cœur à Dieu pour lui dire, en fait, je suis là, je suis partie de tout et maintenant je trouve mon cœur.
Vous étiez combien ?
On était une grosse soixantaine.
Un beau gros week-end, bravo pour l'organisation. Initiative assez proche pour le même public, les Rando Frassati en Savoie. J'ai passé un coup de fil à Delphine Gers, d'abord participante, on lui a proposé de faire un topo et puis elle est rentrée dans l'équipe d'animation spirituelle puis logistique des randos qui ont lieu chaque mois.
Donc l'idée c'est d'aller marcher, de prendre l'air. Quand on peut dans l'année, on propose aussi des week-ends. Donc en général, il y a deux week-ends classiques au ski, un week-end plutôt ski de piste et un week-end plutôt ski de fond. Il y a au moins une messe à chaque sortie. Idéalement, on la fait en plein air. Parfois, c'est pas possible. Et il y a aussi du coup toujours un petit temps d'enseignement. On essaie de faire en sorte que ça soit vraiment un topo qui soit animé par un ou plusieurs jeunes. On essaie de proposer aux participants en rando de s'investir, d'avoir pas toujours que ça soit un peu moins descendant, que ça vienne aussi des jeunes, que ça soit eux qui proposent leur vision de la foi. Et on propose aussi des temps, surtout sur les week-ends, où on a du coup un peu plus de moments pour faire autre chose que marcher et que juste faire des activités sportives, proposer des moments pour que les jeunes puissent vraiment parler, se rencontrer et parler de leur foi.
Et en quoi justement ça se marie bien ces deux aspects, avoir du temps physique et la spiritualité avec ?
En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se vivre pendant une marche, qui sont pas possibles dans d'autres contextes sociaux. Enfin, je pars de mon expérience personnelle. Je sais que, par exemple, quand on est dans un groupe de personnes, c'est un peu difficile de se tenir et d'écouter et de recevoir les mots et de prendre le temps d'accueillir les mots avant de répondre. On se sent un petit peu mal à l'aise si on parle pas beaucoup, alors que dans une marche, on peut parler et que le rythme des conversations soit différent. On peut prendre un petit temps de silence, marcher sans répondre tout de suite, laisser digérer. On peut aussi être un tout petit peu en retrait de deux personnes ou trois personnes qui parlent et quand même les écouter puis intervenir plus tard. Et du coup, bon, bah, on parle aussi de choses et d'autres, on se demande ce qu'on fait dans la vie, quelles sont nos passions. Mais très souvent, les sujets qui reviennent, c'est quoi ton histoire à toi de foi? Est-ce que t'as grandi dans une famille chrétienne? Quand est-ce que t'as été baptisé? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, quoi? Alors, peut-être qu'on pourrait croiser les gens dans d'autres contextes, mais on leur parlerait pas des mêmes choses. Je pense que ça, on n'oserait pas aborder des sujets aussi intimes que que nos croyances, nos convictions sur la foi.
On a parlé de la marche et tout, mais il y a le paysage. Et ça porte aussi, j'imagine.
Le sujet aujourd'hui, c'est le sport et la foi. Mais là, Frassati, c'est vraiment des sports qui se font exclusivement en plein air, que ce soit des raquettes, de la rando pédestre toute simple ou du ski. On a même proposé sur la dernière un moment de baignade. Donc ça peut être un peu on a eu un moment de nage pour ceux qui voulaient. Mais en tout cas, on fait que des sports vraiment de plein air. Et ça je pense que ça ouvre beaucoup plus à parler de spiritualité, pour pas dire que de religion. Ça, je pense que c'est une autre manière de rencontrer Dieu par nos sens, par ce qu'on voit, ce qu'on entend de la nature. Proposer une randonnée à quelqu'un qui s'interroge sur la foi ou qui a eu des coupures ou qui est en recherche ou qui est pas sûr de est-ce qu'il veut se rapprocher d'une église, de l'église catholique en particulier ou pas, c'est beaucoup plus facile d'inviter quelqu'un à une marche que d'inviter quelqu'un à un temps de prière dans une église ou dans une salle de réunion comme ça se fait parfois pour les frats. Je pense que c'est beaucoup plus facile de toucher certains jeunes. C'est carrément stratégique, en fait, entre guillemets, si on veut inciter les gens à s'ouvrir, à explorer un peu qu'est-ce qu'ils croient et à voir à quoi ressemble l'église en dehors des églises physiques.
Delphine Gers, donc pour les Rando Frassati de la pastorale des jeunes de Savoie. Florence, vous qui êtes en responsabilité à la pastorale, on le voit hein, finalement, que ce soit des week-ends de ski espi ou les Rando Frassati, même combat, c'est un vrai levier pour une pastorale des jeunes d'utiliser cet outil sport et foi.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un bon point de départ parce que comme le dit Delphine, on peut facilement proposer à des personnes qui connaissent pas trop ou pas du tout la foi. C'est vrai que sur les dernières randonnées, on a eu un jeune qui n'était jamais venu à une messe. Donc pour lui, c'était une vraie découverte. Et puis, c'est vrai qu'on a ce temps de topo. En fait, on a beaucoup d'éléments qui sont là pour les titiller. En tout cas, s'ils veulent aller plus loin, ouais, c'est possible. Ne serait-ce que le nom, les randonnées Frassati, mais qui est... Enfin, Pierre Giorgio Frassati.
Mais qui est-il ?
Chaque fois, on a un petit carnet qui réexplique des éléments de sa vie. Donc, ça leur permet de creuser. Et puis, c'est un sein qui est vraiment accessible pour les jeunes. Donc, on a, comme le dit aussi Delphine, effectivement, ces temps d'échange, on les incite à chaque début de randonnée d'aller vers quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour tisser des liens. Et ensuite, après le topo, on leur donne aussi des pistes de réflexion et on les invite à en discuter par deux, généralement. Et donc, c'est là qu'on peut avoir c'est vrai qu'on a le temps de ces discussions plus profondes dont on a moins le temps peut-être au quotidien, même dans les autres rencontres jeunes pro, qui sont des soirées de formation ou de prière, mais on a peut-être moins le temps de discuter, d'entrer un peu en profondeur dans ces sujets-là. C'est une foi qui est accessible, c'est pas non plus, c'est pas une foi qui fait peur, quoi. On a une messe, un topo, mais c'est pas
ouais, ça
des charismes
pas
expressifs,
tout
voilà. ça paraît pas trop. Et effectivement, cette notion de beauté qui rejoint beaucoup. Et donc, c'est vrai que c'est un bon point de départ. Ce sont des amitiés qui naissent et qui durent derrière. Et souvent, les personnes qui commencent par la randonnée Frassati, on les retrouve au cours de l'année. Donc, c'est vraiment un bon outil, entre guillemets, pour nous.
Pastoralement parlant.
C'est ça.
Octavio Bermeo, pasteur de l'église évangélique Acte, votre église qui fut à l'initiative de la création de l'association Sport et Foi Chambéry et qui a concrétisé cet engagement avec une action mensuelle le dimanche. Je vous propose d'écouter Jérôme Saez, coach et prof de sport, qui m'en a parlé cette semaine.
On a commencé par se retrouver avec des passionnés de sport, notamment des passionnés de sport de combat. Progressivement, un groupe s'est formé. Alors, un groupe essentiellement de chrétiens. Au début, on était très peu nombreux, puis ça a pris de l'ampleur. Donc, on s'est dit, mais en fait, s'il y a tant de demandes, pourquoi pas fédérer, trouver comment faire pour faire du lien. Il y a eu une sorte de coïncidence de calendrier qui s'est mis en place, puisque Sport et Foi France a organisé ce qu'ils appellent le rassemblement des leaders aux alentours de novembre 2025. C'est une fois par an pour permettre à tous les leaders, tous ceux qui interviennent dans l'enseignement ou dans le groupement de Sport et Foi France, de se retrouver pour être à l'unisson sur un fonctionnement. Contact assez fantastique, notamment aussi avec nos parrains sur place qui sont devenus nos parrains, les parrains de Sport et Foi Grenoble. Voilà, on a vu que leur mission dans Sport et Foi France, c'est effectivement de proclamer Christ et son message, on va dire, à toute personne qui est touchée par le sport et d'aider à grandir dans la foi. Mais enfin, c'est des valeurs qui sont assez simples et en même temps particulièrement parlantes parce que ils prônent tout ce qui est effectivement amour, confiance, humilité, puis tout en restant dans l'excellence. C'est-à-dire que ça reste pas simplement de la simple petite animation. On va pousser plus loin, on va essayer d'être brillant sur le terrain, tout en s'éloignant, on va dire, des dérives sportives qu'on pourrait rencontrer du haut niveau, donc de l'excellence, mais dans la mesure.
Et concrètement, alors, comment ça s'incarne à Chambéry? C'est dans ce projet du dimanche à Chambéry-le-Haut, c'est ça?
On s'était rencontrés un peu à Chambéry-le-Haut, c'était la naissance des sports de combat. Et puis, on a décliné, effectivement, vers une activité normée sur le sport et foi Chambéry, qui prend cœur, effectivement, dans un gymnase de collège, le collège Notre-Dame du Rocher, qui nous accueille avec effectivement une convention. Et une fois par mois, on accueille toute personne qui souhaite pratiquer autour de différentes activités sportives, le volley, l'ultimate, le cross-training, le fitness, mais aussi effectivement le jiu-jitsu et le sport pied-point. On a gardé un peu notre particularité. Et on a globalement une trentaine à une quarantaine de personnes qui viennent maintenant expérimenter ce petit moment de partage ensemble et sportif. La naissance du courant est partie de l'église Acte, et maintenant effectivement on partage ça avec de l'entre-église, puisque Nicolas, notre référent fitness, cross-training, il est plutôt coach à Keep Cool, et en même temps il est plutôt du côté catholique.
Et votre public, est-ce qu'il vient chercher surtout du sport ou aussi le côté spirituel?
L'un va pas sans l'autre. Dans nos déclinaisons, on fait en sorte d'avoir sur toute cet après-midi souvent un temps de témoignage. Alors on a eu plusieurs types de témoignages, des sportifs de haut niveau ou d'anciens préparateurs. Et puis à côté, on a aussi décidé de développer de l'échange avec le public pour pas que ce soit que descendant et que ce soit juste du témoignage, mais aussi de l'interactivité sur comment on replace les valeurs chrétiennes au centre du sport, pourquoi ça amène une plus-value ou comment ça s'échange. Et ouais, le public aime bien cette parité. Alors, il y a des vrais temps de pratique, mais aussi du temps d'échange spirituel. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais.
Octavio, qu'est-ce qui vous marque dans cette action toute récente pour l'instant?
Oui, je suis un défenseur de l'unité et du rassemblement. Ça répond à un besoin de rassembler, de quelque part casser les murs et tisser, et créer des ponts. Et quoi de mieux qu'avec les sports? Et je pense que c'est ça qui me touche beaucoup. Par exemple, là, chaque fois qu'on se voit, il y a des personnes, même parfois non-croyants, qui sont là, qui viennent. Parmi les coachs, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, il y a un jeune aussi catholique qui est très engagé dans sa paroisse, mais qui vient avec nous. Donc, c'est ça. C'est ça qui est beau et je voudrais mettre en avant ça parce qu'on a été trop séparés et il faut trouver des moyens pour qu'on soit ensemble. C'est un bon témoignage.
Venons-en à cet événement qui arrive tout bientôt aux catholiques. Pour l'instant, peut-être un jour écuménique, on verra le premier sacré trail proposé par l'Église catholique en Savoie le 27 juin. Je résume le concept, 3 itinéraires au choix, une boucle familiale, une boucle intermédiaire et enfin le trail des sportifs confirmés, peut-être est-ce celle que vous ferez, Père Pierre-Emmanuel, 22 km, 1140 mètres de dénivelé, c'est pas pour moi. Et côté spirituel, la bénédiction des coureurs par l'archevêque de Chambéry, de l'adoration et d'autres proposition. Florence Burchel, Pierre-Emmanuel Dieudonné, pourquoi le trail? Quelle est la genèse du projet?
L'idée est venue d'un groupe d'amis en fait, avec qui on fait beaucoup notamment de randonnée, de sport en montagne, et puis qui nous proposait, mais est-ce qu'un jour on pourrait pas faire un sacré trail avec la pastorale? On a commencé un peu à en parler autour de nous et on voyait que les avis étaient tout de suite très positifs, les personnes étaient tout de suite très emballées. Et ce qui nous a donné le feu de départ, le feu vert, c'était les intentions du pape qui nous a donné au mois de janvier pour toute l'année, et notamment son intention de prière au mois de juin. Prions pour que le sport soit un instrument de paix, de rencontre et de dialogue entre les cultures et les nations, et que par lui soient promues des valeurs telles que le respect, la solidarité et le dépassement personnel. On s'est lancé à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a décidé aussi de faire ce trail en juin, et pas avant ou pas après. Les gens étaient vraiment facilement motivés et ça nous a beaucoup encouragés. C'est un projet qui interpelle beaucoup et qui fédère malgré tout, et qui fédère, comme on le disait, aussi bien au niveau catholique qu'au niveau de nos connaissances qui sont moins proches de la religion. Donc pour le jour J, on en attend des rencontres entre les participants, on attend de montrer l'Église aussi sous un nouveau visage, peut-être pour ceux qui pourraient en avoir des a priori qui sont plus ou moins actuels. En tout cas, faire connaître l'Église d'une manière différente. Et on espère que peut-être cet événement pourra perdurer.
Et en fait, il y a une idée de pouvoir aussi proposer aux coureurs de tirer au sort, enfin de recevoir une intention de prière.
Ah, chouette.
Et en fait, de le porter, d'y penser, d'y prier si possible tout au long de la course et de le déposer un peu à l'arrivée. Et c'est vrai que pour moi, les deux intérêts de ce trail-là, c'est de montrer que l'Église ne propose pas que des messes. De toute façon, c'est la réalité. Mais voilà, peut avoir des propositions très liées à... à la vie concrète des personnes, et donc en particulier là, le sport. L'autre aspect, c'est pas qu'on veut surfer sur la vague, mais c'est vrai que le trail est quand même assez populaire aujourd'hui. Beaucoup de propositions, chaque village veut faire son trail. Comme dit Florence, on veut juste tenter, voir si on peut proposer ça, et peut-être dans les autres années de proposer d'autres lieux, d'autres projets.
Les inscriptions pour les coureurs sont encore ouvertes, bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour les bénévoles, avec plaisir aussi, on prend toutes les bonnes volontés.
Bon, comme ça, on peut ne pas courir et venir participer et vivre l'événement d'une autre manière. Est-ce que vous avez d'autres expériences sport et foi actuelles ou passées, ou peut-être en projet à évoquer? Il me semble qu'il y a du foot paroissien aussi à Chambéry, Pierre-Emmanuel.
Depuis quelques années, il y a le curé de Chambéry qui a proposé de lancer un petit groupe le lundi soir pour ados, étudiants, jeunes pros, un peu pères de famille. Enfin, c'est ouvert aux femmes aussi. Une, deux heures, en fait, de foot très libre, qu'on prie au milieu. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un temps de sport collectif, très simple et dans une bonne ambiance.
J'aimerais dire, peut-être, s'il y a des personnes qui sont intéressées, il y a quelque chose qui traîne dans ma tête depuis longtemps, c'est peut-être réunir un groupe pour faire du vélo. Dans notre paroisse, il y a pas mal, il y a un bon groupe qui fait du vélo. Il y a déjà des personnes aussi qui ont été en 7 milieux au niveau professionnel. Ne vous inquiétez pas, ils savent tempérer les rythmes. S'il y a des gens qui ça les intéresse, ça pourrait être très bien qu'on puisse peut-être créer ce petit comité vélo, mais qui sera rattaché aussi sûrement à Sport et Foi.
À Sport et Foi. Les pastorales des jeunes, vous allez continuer dans vos dynamiques Sport et Foi aussi, du coup?
Cet été, il y a donc une équipe annécienne qui remet en place un projet qui s'appelle la Joëlette Chantante. C'est une grande marche avec différents étudiants, jeunes pros, qui marchent avec des personnes en situation de handicap. Et il y a aussi donc la pastorale du tourisme qui met en place différentes haltes spirituelles cet été, dont deux, donc le 10 août à côté de Chamonix, à Argentière, donc autour de Laudato aussi. Il y aura un théologien, et puis un philosophe, et l'après-midi il y aura une marche, voilà, pour aussi autour de la contemplation de la nature en lien avec Laudato aussi. Et puis le 30 août, une rando spirituelle au Grand Bornand.
Côté Savoie aussi, quelques haltespies itinérantes ou sportives parmi tout un large éventail. Bon, quant au Sacré Trail, on verra déjà si cette édition fonctionne, mais je vous sens chaud patate pour en faire une suivante. Je vous ai demandé les fruits et les bienfaits des actions pastorales Alliance Sport et Foi. Est-ce que de la même manière, quand on a parlé théologie tout à l'heure, il y a peut-être des risques ou des écueils à éviter quand on allie sport et foi?
Quand on organise des événements comme ça, je trouve ça très important quand même de bien se demander comment peuvent être accueillies les personnes plus âgées, les familles, les personnes avec un handicap, avoir un corps aussi en bonne forme et une grâce. Donc je trouve ça très important qu'on puisse, dans tous ces événements, veiller à cela.
Pour finir, partagez-nous une anecdote, un souvenir ou une joie liée à notre thème sport et foi.
Une des anecdotes, c'est avec une association 82-4000 qui accompagne des personnes défavorisées et des migrants faire de l'alpinisme et de la montagne. À ce moment-là, on était allé faire une randonnée dans les Aravis, un des migrants qui était passé par différentes frontières autour de la Hongrie et de la Bulgarie. Et il me disait, voilà, que c'était une des premières fois en fait qu'il marchait pour le plaisir. Avant, il avait beaucoup marché par nécessité et par survie. Et voilà, ouais, on avait pu aussi parler de la foi, de la création, et on était vraiment bouche bée face à cette montagne ensemble. Donc ça, c'était un beau souvenir.
Moi, il y a une expérience qui m'a beaucoup marquée, c'est les Pélé VTT, qui est vraiment une expérience aussi sportive et intergénérationnelle, où en fait, chacun vraiment trouve sa place. Et il y a une très, très grande fraternité. Et moi, l'an dernier, je l'ai fait comme bénévole, justement, à la cuisine. Il y avait quelque chose de très, très beau d'ambiance village au service donc des collégiens qui pédalaient, des ados qui les encadraient et des animateurs. C'est vrai que moi, c'est un peu un rêve, j'allais dire, d'un jour pouvoir monter ça sur la Savoie. Donc, on ne sait jamais si... Il y a des gens à qui ça parle.
Avis aux amateurs. Florence.
Pour moi, c'était une semaine de marche dans le Kira. C'était juste avant de commencer ma mission à la pastorale des jeunes. On est parti avec un certain groupe d'amis, de personnes qui se connaissaient plus ou moins, et aussi avec un prêtre. Donc c'est ce combo, cette liaison entre la déconnexion, les paysages, le temps de prendre du temps pour soi, le temps d'avoir des enseignements et d'avoir le temps de réfléchir à la fois seul et à la fois à plusieurs. Et voilà, c'était un cocktail gagnant, on va dire. Non, ça fait beaucoup de bien de temps en temps. Et c'est pour ça qu'on le propose aussi encore pour notre dernière randonnée, le 12-13 juin. Randonnée de nuit, pour ceux qui le souhaitent.
Et en Colombie, j'ai beaucoup marché. J'ai marché par besoin. Et donc, du coup, la randonnée, ce n'est pas quelque chose qui me donne beaucoup d'envie de faire. Mais bon, quand on a commencé notre église, on a créé un groupe. Et du coup, mon épouse, qui aime beaucoup la randonnée, on s'est dit, allez, on va faire une randonnée. Ce soir-là, il y avait un groupe de randonneurs qui arrivait. finalement la joie de rencontrer des personnes. D'ailleurs, on a partagé, on a raconté nos témoignages. Et quelques temps après, on reçoit dans l'église quelqu'un qui vient me dire « Écoutez, je suis venu vous visiter parce qu'il y a 4-5 années de ça, on s'est rencontrés dans la randonnée ce soir-là et je me suis dit « J'ai envie de voir ces personnes chrétiennes qui sont là ». J'étais très content de vivre ça.
Et Pierre-Emmanuel ?
Un petit souvenir ou une expérience, c'est un peu le sport de nuit. Alors c'est plutôt exceptionnel, faut pas le faire toutes les nuits. Le sommeil, c'est très important pour être en forme. Mais depuis quelques années, je fais la course de la Saint-Élion. C'est une course, un trail entre Saint-Étienne et Lyon, ça se tient. De minuit, puis on arrive à l'aube. On est très nombreux, on court un peu à la frontale. Et en fait, je vois que ça porte un peu de fruits parce qu'il y a d'autres propositions récentes de rando de nuit. Je sais que Lyon organise au mois de mars la rando Saint-Jean, ils vont de Lyon à Ars. Il y a Grenoble qui fait une randonnée de nuit de Grenoble jusqu'à la Grande Chartreuse. Sur Chambéry, la nuit du 12 au 13 juin, il y a une randonnée nocturne aussi pour monter à la Croix du Nivolet. Mais voilà, je trouve qu'il y a aussi une vertu à pouvoir aussi marcher, cheminer, faire du sport la nuit pour arriver en fait à l'aube. Ça peut, on peut rappeler aussi ce que faisaient les premiers chrétiens avec les messes.
Bref, sport et foi, on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup à vous. Bon courage pour toutes vos prochaines initiatives. Belle continuation.
Merci.